C'est un bon signal. Nous avons essayé de commencer, de voir comment se pose le problème de la philosophie première. Je vous ai montré jusqu'ici comment, d'une certaine manière, Heidegger indiquait une impasse de la métaphysique. Et je crois que ce qu'il dit est intéressant à noter. Et il s'agit de bien comprendre la différence de cette idéologie métaphysique qui est née à partir de Occam, qui s'est structurée avec Suarez et qui a continué ensuite, de voir comment on est obligé, si on veut vraiment connaître la réalité dans ce qu'elle a de fondamental, ontologie fondamentale, il ne faut pas l'oublier, c'est là l'intention de Heidegger. Alors je crois que nous prenons son intention sans prendre sa méthode. Mais nous prenons son intention me semble très légitime. Il faut redécouvrir une possibilité de connaître la réalité dans ce qu'elle a de fondamental, dans ce qu'elle a de premier. Ou si vous voulez, chez Merleau-Ponty, redécouvrir l'être sauvage, c'est-à-dire l'être qui n'a pas été manipulé. Les idéologies manipulent l'être. L'être est manipulé par les idées. Et alors, dès que je vois l'être en référence aux idées, l'être est manipulé. L'être est artificiel. L'être n'est plus ce qu'il doit être. Il est fictif. Il est de l'ordre de quelque chose qui n'est plus premier. Il faut redécouvrir ce qu'il y a de premier dans l'être par rapport à ma pensée. Et c'est, je crois, cette manière d'exprimer l'ontologie fondamentale qui montre bien cette intention. Pour redécouvrir cela, nous disons que Heidegger n'a pas été assez loin dans sa critique. Il n'a pas vu à quel moment on avait oublié l'être. On a oublié l'être le moment où on n'a plus regardé avec attention le jugement d'existence. Parce que revenir à Parménide, c'est très bien. Revenir à Anaximandre, c'est très bien. Mais Parménide, l'être est donné dans une inspiration. Si l'être est donné dans une inspiration, je ne peux pas le reprendre. L'inspiration est nécessairement quelque chose de très personnel. Je crois que Parménide joue un rôle important. Et là, Heidegger a raison d'insister sur Parménide. Il joue un rôle important parce qu'il est le premier à proclamer que la connaissance de l'être, connaître l'être, éveille l'intelligence dans un domaine qui est, pour lui, divin. Alors, il faudra voir, il faudra se demander si c'est mythique ou si c'est vrai. Est-ce que l'intelligence, quand elle découvre l'être, est-ce qu'elle découvre le divin? Ça, c'est le gros problème. Et vous voyez, Heidegger n'a pas touché ce problème-là. Et c'est pourtant important, puisqu'au fond, il est très sensibilisé à l'ontothéologique. Et donc, il aurait dû se poser la question. Est-ce que la connaissance de l'être de Parménide est-elle une connaissance de l'être divin ou de l'être, tout court? Ce que Heidegger veut, c'est redécouvrir l'être. Ah, il se met sous le patronage de Parménide, il se met sous le patronage d'Anaximandre. C'est très bien, mais est-ce que ce n'est pas encore quelque chose de trop mythique? Est-ce que vraiment là, la pensée a découvert le point de vue, a dépassé le mythe pour découvrir véritablement l'être? Vous voyez, là, il y a un problème que je crois que Heidegger n'a pas été assez loin au plan critique. Et que nous devons aller plus loin. Je sais très bien que Heidegger a très peur du logos grec. Et c'est à cause de cela qu'il a voulu aller si loin. Il a très peur du logos grec. Alors, est-ce que là encore, il n'a pas fait suffisamment un discernement entre le logos grec du discours donc du logos grec qui est, si vous voulez, lié à tout l'aspect logique, et le logos grec lié à la forme telle que Platon, et le nous dans ce qu'il a de parfait. Voyez, faisons un tout petit peu cette précision pour bien comprendre comment nous devons aller plus loin que la critique de Heidegger. Il me semble très net que la peur de Heidegger, c'est le logos. C'est pour ça qu'il veut une connaissance préconceptuelle. Ça, il le dit ouvertement. Donc c'est facile à comprendre. Il veut une connaissance préconceptuelle. C'est parce que pour lui, la connaissance conceptuelle implique la connaissance de l'idée avant la question de l'objet. Ce qui est justement une connaissance du logos grec qui n'est pas du tout celle que nous allons employer. Donc nous ne tombons pas sous la critique de Heidegger par rapport à ce logos. Le logos grec, c'est intéressant du reste, parce que ça nous oblige d'assouplir notre connaissance du logos. Le logos grec, nous dirions dans un langage aristotélicien, il est analogique. Il y a différents niveaux de ce logos. Il n'est pas à un seul niveau. Alors, il y a le logos grec qui est au niveau logique. Le propre de la connaissance logique, c'est que l'intelligence saisit, on dira ensuite l'être de raison, à l'intérieur même de sa connaissance. Autrement dit, la connaissance logique implique une attitude réflexive qui fait qu'on saisit l'être de raison à l'intérieur même de la connaissance. C'est la connaissance qui donne à l'intelligence son propre objet. L'objet n'est pas antérieur à la connaissance. L'objet provient de la connaissance. S'il n'y a pas connaissance intellectuelle, il n'y a pas d'être de raison. Et donc l'être de raison est saisi à l'intérieur de la connaissance comme ce qui détermine ce logos. Et c'est ce qui fait comprendre l'opposition violente de Heidegger en disant « ayons une connaissance préconceptuelle ». Il faudrait traduire « pré-logique ». Alors là, je serais d'accord. Vous voyez ? Il y a une confusion entre la connaissance logique et la connaissance conceptuelle. Heidegger est tout à fait, je dirais, c'est assez normal qu'il arrive à cette confusion parce qu'il n'a pas vu assez la corruption de la scolastique par Occam. Et chez Occam, le logos, il est logique. Vous voyez ? Alors, comme de fait, il y a une dépendance de Heidegger avec Don Scott et, on peut dire, avec Occam, il n'a pas vu suffisamment le blocage entre ce logos et le point de vue logique, et il a considéré tout simplement que c'était cela, la connaissance conceptuelle. Donc la connaissance conceptuelle pour lui est à ce niveau-là. C'est un peu ce qu'on voit chez Bergson, vous comprenez. Il y a sur la connaissance conceptuelle, il y a des confusions et des équivoques terribles qui se sont faits. Donc il s'agit de bien comprendre. Quand nous parlons de connaissance conceptuelle, de bien comprendre ce que nous voulons dire. Il faudrait presque aujourd'hui ne pas parler de connaissance conceptuelle. Parce que pour la plupart, la connaissance conceptuelle égale la connaissance logique. Qui fait que ce qui est connu en premier lieu, c'est le concept. Remarquez que le jeu de mots le montre bien, connaissance conceptuelle. Donc c'est la connaissance du concept. Et la connaissance du concept, c'est donc la connaissance de l'idée. C'est l'idée qui est saisie en premier lieu. Et c'est cela que Heidegger ne peut pas accepter, parce que si l'idée est saisie en premier lieu, l'être n'est plus saisi que relativement à l'idée. Heidegger s'oppose aussi au logos de Platon, qui n'est plus le logos proprement logique, qui est le logos de la forme. Ce logos de la forme empêche d'atteindre véritablement l'être. Donc il y a deux oppositions, je crois, qui lui fait dire qu'il faut une connaissance préconceptuelle. Et donc, la connaissance de l'être ne peut être donnée que dans une pensée absolue, première, dont on ne peut rien dire. Il n'y a plus d'analyse, il y a uniquement penser l'être. Et alors, à la rigueur, au terme, on ne sait plus ce que ça veut dire. C'est ce que Clavel dit avec beaucoup de force quand il critique Heidegger dans son livre pour Kant, le plaidoyer pour Kant. Alors il attaque violemment cette connaissance préconceptuelle en disant « on ne sait plus ce qu'on veut dire ». Alors on met préconceptuel, nous sommes devant un mot qui fait qu'on cache la réalité profonde. Et on comprend très bien, parce que étant qu'ancien, vous comprenez bien qu'étant qu'ancien, dire une connaissance préconceptuelle, on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. C'est avant les formes a priori. Les formes a priori seraient beaucoup plus dans ce sens-là, dans le sens platonicien. C'est avant cela, et donc c'est tombé dans la nuée, c'est ce qu'Aristote aurait dit, c'est tombé dans la perspective des théologiens qui mettent les ténèbres avant la lumière. N'est-ce pas ? Et au fond, c'est bien ça, c'est tombé dans la perspective de mettre le néant avant la lumière, préconceptuel. C'est né de quelque chose d'absolument indéterminé. Et donc, si c'est préconceptuel, c'est une connaissance qui est morte dans sa naissance. C'est une connaissance qui ne peut plus vraiment être une vraie connaissance intellectuelle. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cela chez lui. Essayons de voir ce qu'il y a d'intéressant dans cette affirmation d'une connaissance préconceptuelle. Ça veut dire que c'est une connaissance qui est au-delà du logique et au-delà de la forme. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Il faut redécouvrir dans le nous un logos qui soit différent du logos logique, c'est-à-dire du discours, un logos qui soit différent de la forme, donc c'est-à-dire de l'aspect quiditatif de ce que nous pouvons saisir. C'est le nous qui saisit la réalité dans ce qu'elle a de foncier, de premier. C'est au fond ça le désir de Heidegger, dans son intention. Donc c'est bien le retour au nous dans ce qu'il a de fondamental. Le nous dans ce qu'il a de fondamental a encore un logos, mais un logos primitif, un logos premier. C'est-à-dire, il y a bien encore un concept, mais un concept que je ne découvre pas du tout en premier lieu, que je découvre en dernier lieu dans une attitude réflexive. La connaissance intellectuelle de l'être se fera non plus par la logique, non plus par la forme, mais elle se fera par le jugement d'existence. Et ce jugement d'existence implique un concept, comme tout jugement, implique un concept, mais ne regarde pas en premier lieu le concept. Le concept n'est pas ce qui détermine ce jugement d'existence. Ce qui détermine ce jugement d'existence, c'est la réalité existante. C'est la réalité existante, c'est-à-dire la réalité qui m'est donnée. Mais ce n'est pas le donné que je regarde, c'est l'être en acte dans cette réalité. Donc, jugement d'existence. Ce que Heidegger ne fait pas. Et c'est là que je dis que il faut bien comprendre que la perte, l'oubli de l'être, qui nous a été donné par Parménide, l'oubli de l'être, c'est très vrai, a commencé par Platon. Pourquoi ? Parce qu'il a mis avant l'être la forme. Là, Heidegger a parfaitement raison. Mais il considère trop Aristote dans la dépendance de Platon et ne voit pas assez que Aristote, justement, a supprimé les formes, a dit les formes n'existaient pas, pour se retrouver devant la réalité. Et ça, c'est le désir d'Aristote, de se retrouver devant la réalité. Heidegger le sent bien, parce que quand il parle de l'entelecheia, c'est-à-dire de l'acte d'Aristote, Heidegger est obligé de reconnaître que c'est ce qu'il y a de plus parfait dans toute la philosophie d'Aristote, c'est d'avoir découvert l'entelecheia. Or, si Aristote n'avait pas découvert le jugement d'existence, il n'aurait pas découvert l'entelekeia. Nous le verrons, ça, progressivement. C'est important de le souligner dès le point de départ pour comprendre comment nous revenons au jugement d'existence. Alors, ce n'est pas parce qu'Aristote le dit, c'est parce que je ne peux pas aller plus loin dans l'aspect du retour vers quelque chose de fondamental. Je vous défi philosophique, je vous défie de trouver quelque chose de plus fondamental que le jugement d'existence. Cherchez, c'est bon à chercher. Cherchez, et si vous trouvez, parce qu'il faut toujours chercher, vous êtes un chien de chasse, n'est-ce pas, comme dit Platon, vous êtes un chien de chasse, notre intelligence cherche pour découvrir le gibier. Et ici, il s'agit de découvrir le gibier fondamental, l'être sauvage. Donc, il s'agit de découvrir ce gibier qui n'aime pas d'être pris au lacet, parce que être pris au lacet, c'est d'être pris dans les catégories, n'est-ce pas, c'est le lacet, les catégories. Alors, il ne veut pas être pris dans les lacets, il échappe tout le temps. Alors, il s'agit de découvrir dans son instantanéité. Il s'agit de le découvrir pour lui-même, tel qu'il se présente à moi, la réalité existante. L'exister, la réalité. Comment cette réalité existante se présente à moi. Vous voyez ? Et là, je crois que la scolastique elle-même, parce qu'elle dépend de Suarez, n'a pas assez vu ce point de départ que saint Thomas lui-même souligne dans le Périherménéas. Mais c'est tout à fait à la fin de sa vie que saint Thomas précise avec netteté que c'est vraiment le jugement d'existence qui est le fondement de toute la métaphysique. C'est pas la substance, vous voyez. La substance, c'est ce qui détermine la métaphysique. Ici, je parle du fondement, du point de départ. Donc, l'ontologie fondamentale. Je pars de ce qui est. Et je saisis ce qui est dans le jugement d'existence. Et le jugement d'existence représente bien la rencontre du nous. Je ne dis pas de la raison, je ne dis pas de l'entendement, je dis du nous. Traduisons l'intelligence dans ce qu'elle a de plus elle-même. La rencontre de l'intelligence avec la réalité existante. Et je verrai dans une attitude réflexive que ce jugement d'existence implique nécessairement progressivement, un concept d'être. Mais je ne parlerai du concept d'être qu'en critique et non pas en métaphysique. J'espère que comme ça, vous voyez bien nettement la position de Heidegger, parce que c'est important de comprendre cette position de Heidegger aujourd'hui et de comprendre pourquoi nous ne suivons pas Heidegger. Parce qu'il n'a pas été assez loin. Il n'a pas critiqué suffisamment. Vous voyez ? Comme Clavel fait critique de Kant, on a tout à fait le droit, et non seulement le droit, mais on a le devoir par rapport à la pensée de Heidegger qui veut redécouvrir l'être, de voir qu'il n'a pas été assez loin. Il a découvert que l'être avait été oublié parce qu'on a trop parlé du concept, on a trop parlé de la forme. Et ceci, c'est très très beau de la part de Heidegger de l'avoir fait. C'est même très grand. Et il nous indique la route. Allons un peu plus loin. Et comprenons qu'il s'agit de redécouvrir non plus l'être dialectiquement, mais parce que le redécouvrir dialectiquement, c'est encore le redécouvrir à partir du sujet. La dialectique, elle n'est pas dans la réalité. La vie n'est pas dialectique. La réalité n'est pas dialectique. Donc, c'est une méthode. Je ne peux pas redécouvrir l'être à partir d'une méthode dialectique. Je ne peux redécouvrir l'être que dans la mesure même où mon intelligence est capable d'être en contact direct avec la réalité existante. Et ce contact direct avec la réalité existante se fait par le jugement d'existence. Alors, je vous disais la dernière fois, et je reviens un instant là-dessus, étant donné l'importance de ce jugement d'existence, qui est difficile à redécouvrir. Il est toujours présent dans une expérience, mais ce n'est pas l'expérience. C'est quelque chose de plus fondamental que l'expérience. Dans ce jugement d'existence, il y a l'alliance du nous et de nos sensations. Mais ce ne sont pas nos sensations qui déterminent le jugement d'existence, c'est la réalité elle-même existante. Que cette réalité soit rouge, qu'elle soit bleue, qu'elle ait telle figure, ça n'a qu'une espèce importante. Le tout, c'est qu'elle existe. C'est qu'elle existe d'elle-même, par elle-même. C'est qu'elle existe comme autre que moi. Et donc, c'est le contact avec une réalité existante autre. Et j'insiste beaucoup, parce que ça nous fait tout de suite comprendre que si notre philosophie part du jugement d'existence, elle est tout de suite une philosophie de l'autre. Cet autre ne s'oppose pas au même, mais le même, je ne le découvrais qu'à partir de l'autre, et non pas l'inverse. Alors là, nous tombons dans une querelle très intéressante, la querelle de savoir s'il faut commencer par le même ou l'autre. Vieille querelle qui vient de Platon et qui revit aujourd'hui. C'est ça qui est très intéressant. Au fond, l'immanence et la transcendance. L'immanence est le même, la transcendance est l'autre. Alors, doit-on commencer par l'autre, doit-on commencer par le même? Alors, je vous dis simplement ce qu'il me semble. Commencer par le même, c'est commencer dans une philosophie réflexive. C'est donc commencer d'abord par la pensée. Et donc, c'est s'enfermer toujours dans le concept. Commencer par l'autre, c'est justement comprendre qu'il y a une capacité de l'intelligence que nous pouvons expérimenter, qui est capable d'atteindre l'autre directement et immédiatement. C'est l'intelligence qui s'efface pour atteindre l'autre. C'est là où on touche l'objectivité la plus grande et la plus grande subjectivité. Et je crois qu'il est bon aujourd'hui de dire que c'est dans le jugement d'existence qu'on saisit la plus grande objectivité, la plus grande subjectivité. Et les deux sont liés. Ce qui est normal. Parce que la distinction objective et subjective, c'est une distinction qui s'est faite à partir de la critique. Et c'est une distinction très dangereuse. Très dangereuse. Parce que opposer l'objectif et le subjectif, c'est peut-être oublier que la réalité de la connaissance est au-delà de la distinction. Quand je connais, je connais. Et puis c'est tout. Et puis je me demande ensuite, attitude critique, est-ce que c'est objectif, est-ce que c'est subjectif? Mais si vous vous demandez avant, est-ce objectif, est-ce subjectif, vous ne connaîtrez jamais rien. Laissez un peu de liberté au nous. N'est-ce pas? Il faut lui laisser sa liberté native. Alors il connaît. Après, très bien, posez-vous la question. Il connaît quoi? Qu'est-ce qu'il connaît? Bon, il connaît une réalité existante, grâce à mes sensations. Cette réalité existante, elle est autre que moi, elle est objective. Mais je la connais dans ma subjectivité, et ma subjectivité la plus radicale, c'est-à-dire mon jugement d'existence. C'est bien évident que je ne peux pas découvrir la réalité existante en dehors de cette subjectivité transcendantale. N'est-ce pas? On met entre parenthèses transcendantale pour faire allusion à d'autres choses. Parce que en réalité, c'est là où mon intelligence est la plus elle-même, parce qu'elle saisit son bien. Son bien, c'est l'autre. Donc, vous voyez bien comment une philosophie première qui se veut exhaustive, c'est-à-dire qui veut atteindre l'homme dans sa plénitude, qui se veut fondamentale, ne peut commencer que par un jugement d'existence. Quand je dis ça, je suis en critique. Parce que spontanément, je comprends qu'au-delà de mes expériences, il y a un jugement d'existence. Alors ça, je vais tout de suite vous le rappeler, parce que c'est important de ne pas voir que le point de vue critique. Il s'agit de voir maintenant comment l'intelligence, dans sa spontanéité naturelle, est conduite directement au jugement d'existence. Si je prends, je vais aller assez vite, parce que c'est des choses que les anciens connaissent, n'est-ce pas, et que même pour les nouveaux, c'est important de le situer. Si je prends les divers types d'expériences, ma philosophie commence par les divers types d'expériences. L'expérience du travail, et j'ai essayé de vous expliquer, au moins en cours de philosophie de l'activité artistique, l'importance de cette expérience. Et je crois qu'il faut vraiment toujours maintenir cette expérience du travail comme une expérience type première, comme expérience. C'est là où j'ai la plus grande conscience d'atteindre l'autre. Et l'autre ici, c'est la matière. Vous voyez comme c'est objectif. La matière, comme objectivité, c'est radical. Hein? Parce que la matière, par définition, c'est l'indéterminé. Donc c'est celui qui est non-objet. Et pourtant, c'est elle que j'atteins en premier lieu. Vous voyez l'objectivité, comme c'est intéressant. Parce que ça nous montre très bien que quand je dis que cette expérience du travail me donne la première expérience objective, je vois très bien que l'objectivité, c'est pas du tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. L'objectivité, c'est tout simplement heurter l'autre. Vous êtes objectif quand votre pied touche quelque chose et que vous allez tomber. Alors à ce moment-là, vous voyez l'autre. L'autre, c'est l'existant. L'objectivité, d'abord ça, en premier lieu. Mais c'est une objectivité très imparfaite. Très, très imparfaite. C'est l'objectivité qui m'est donnée dans le jugement d'existence. L'objectivité du jugement d'existence est autre chose que l'objectivité de l'appréhension. Et toutes les confusions viennent de là. Toutes. Non, vous n'avez qu'à regarder, ça vient de là. C'est qu'on on a aujourd'hui comme objectif que ce qui dépend de l'appréhension. Et on n'accepte pas le point de vue objectif, le point de vue de l'autre. Alors il faut au contraire l'accepter, c'est l'autre qui est objectif. L'autre existant. La réalité existante, c'est celle-là qui fait choc. Parce que le travail présuppose l'inspiration, et bien en travaillant je transforme la matière. Donc en travaillant je transforme l'objet. Et je le transforme selon la direction que j'ai. Alors vous voyez, comme la subjectivité transcendantale est forte dans le travail, puisque ma matière devient de plus en plus déterminée à fur et à mesure que je travaille. Le mélange entre subjectif et objectif est merveilleux dans la question du travail. Et c'est très intéressant de le voir là, parce que c'est ma première expérience. Le travail présuppose la connaissance, et le travail prolonge ma connaissance. Bon. Première expérience. Seconde expérience, amour d'amitié. Tout le point de vue de l'éthique. Troisième expérience, la coopération. Donc, première, deuxième, troisième. Toute la philosophie humaine repose sur ces trois expériences qui sont fondamentales. Et je crois qu'il faut commencer la philosophie par là, génétiquement. Il ne faut pas faire ce que la scolastique a fait. La scolastique a commencé par la philosophie spéculative en appliquant ensuite la philosophie spéculative aux pratiques. Ça, c'est un vieux reste de la théologie. Mais ce n'est pas philosophique. Et c'est pour ça que c'est important de voir toujours derrière tout cela la physionomie de Socrate. Hein. N'oubliez pas. Socrate qui est le père de l'éthique. Hein. Qui est le père de l'éthique. Un père de l'éthique qui a très peur de la politique. Un père de l'éthique qui a très peur de ce que représente tout ce qui viendrait empêcher l'éthique d'être parfaite. On comprend très bien. Il veut restituer une éthique. Et au fond, il le prend de ce point de vue-là. Il n'a pas du tout pris d'abord par des idées extraordinaires, non. C'est ce que les gens croient toujours. Ah, vous faites de la philosophie, ah, attention, ne perdez pas le sens du réel. Parce qu'on dit tout de suite, spontanément, je suis sûr. Dans toute bonne famille, on dit ça. Hein, vous faites de la philosophie, hein, ne perdez pas le sens du réel. Mais quoi? Est-ce que la philosophie, c'est nous faire perdre le sens du réel, en premier lieu? La philosophie, c'est regarder la réalité profonde, le travail, l'amour d'amitié, la coopération. C'est avoir les pieds sur terre, quoi, le travail. C'est regarder l'amour d'amitié, c'est de pouvoir regarder l'autre en face. Et puis la coopération, c'est de savoir coopérer avec les autres. Et donc, le point de vue politique. C'est la coopération allant jusqu'au bout aboutira au point de vue politique. Bon, et à partir de là, naît les grandes expériences qui sont différentes. Il y a deux connaissances de la matière. Il y a une connaissance de la matière subjective-objective, objective-subjective. Et il y a une connaissance de la matière qui se veut parfaitement objective. Vous voyez, la connaissance spéculative, c'est un regard second. C'est vrai, c'est un regard second. Pour essayer d'avoir une connaissance beaucoup plus réaliste et beaucoup plus objective. Connaître la matière uniquement par la transformation de la matière, ce n'est pas vraiment connaître la matière. Il faut connaître la matière pour elle-même. Et c'est vrai. Tout bon artisan voudra connaître le bois avant de le travailler. Il en verra le poids, il en verra la couleur, il regardera les nœuds et ainsi de suite, avant de le travailler. S'il ne le connaît pas avant de le travailler, il risque de faire des choses qui sont complètement fausses. Et donc il y a une connaissance de la matière. La connaissance de la matière nous conduit à ce que nous appelons traditionnellement philosophie de la nature. Très curieux, c'est la connaissance de la matière qui implique l'expérience du devenir, du mouvement, ou l'expérience de ce qui est mu, c'est plus juste. Voilà une nouvelle expérience. Je connais la matière parce que justement, c'est le sujet de tout mouvement. L'amour d'amitié me met en présence de la vie, parce que l'amour que j'ai pour quelqu'un n'est pas adéquat à sa vie, et donc il faut connaître ce qui est fondamental par rapport à l'amour d'amitié, la vie. Donc nouvelle expérience, expérience du vivant. Je pourrais dire qu'à partir de là, tout vient. Et puis, la coopération au point de vue politique me met en présence du bien commun. Je dois me poser la question, ce bien commun, qu'est-ce qu'il est comparativement au bien tout court ? Alors voyez tout de suite la grande question du bien. Non pas le bien en soi, mais le bien suprême. Est-ce que le bien commun est-il le bien suprême ? Alors il y a une possibilité, il y a une question ici, je pose la question. Et je vois vite, si je suis assez attentif à ces cinq expériences, que je vois s'organiser dans ma vie. Je commence par le point de vue de la connaissance pratique, puis il y a l'éveil de la connaissance spéculative. C'est ici la philosophie dite contemplative. La philosophie contemplative, c'est la philosophie du mouvement qui aboutit à la phusis, à la nature. Et la philosophie de l'expérience du vivant qui aboutit à la découverte de l'âme, la psyché. Je vois que toutes ces expériences ont quelque chose de commun. Je touche toujours une réalité qui existe. Toutes ces expériences sont diverses. Hein. On pourrait mettre des oppositions très nettes. Des oppositions et en même temps de complémentarité. Comme ici, opposition et complémentarité. Entre l'expérience du mouvement et l'expérience du vivant. Je vois que toutes ces expériences ont quelque chose de commun, c'est qu'elles atteignent quelque chose qui existe. Et que cet aspect fondamental n'est pas étudié directement à partir de ces expériences. Et c'est pour ça que ces cinq expériences me conduisent nécessairement à me poser la question, est-ce que je peux atteindre ce qui est et qui est commun à ces diverses expériences? C'est à l'intérieur de ces diverses expériences que je saisis ce qui est. Vous voyez, là encore, attitude réflexive, mais pas d'une réflexion sur le concept, mais attitude réflexive pour saisir dans ma connaissance, dans mon expérience, ce qu'il y a de premier. Vous voyez, c'est une autre manière de voir comment une philosophie de l'expérience est amenée nécessairement à poser ce dernier problème, le problème de la philosophie première. Ce qui est. Et me poser la question, qu'est-ce que ce qui est ? Alors, en plus de ces différents aspects, nous pouvons mettre ici le problème de la critique. Mais le problème de la critique enveloppe toute la philosophie. Et nous pouvons ajouter à la critique le problème logique. Ceci, c'est pour vous donner une petite synthèse des différents aspects de la philosophie. L'itinéraire, si vous voulez, vers lequel nous sommes conduits fatalement si nous nous laissons conduire par la réalité. Cette phrase d'Aristote qui est si belle. Le philosophe doit se laisser conduire par la réalité. La réalité, c'est l'homme. Eh bien, dans l'homme, il y a ces différentes dimensions. Vous voyez, vous trouvez tout de suite les six dimensions de l'anthropologie puisque chaque partie de la philosophie aboutit au problème de l'homme. Donc vous avez six dimensions de l'anthropologie et même une septième qui est la critique. Bon, ceci me permet de dire que je suis conduit nécessairement à ce jugement d'existence, et ce jugement d'existence n'est pas clair du tout. Je crois que vous en avez conscience. Qu'est-ce que ça représente ? Celui qui dit « Ah, mais c'est évident, oui c'est évident, c'est très vrai. C'est très vrai que toutes ces expériences impliquent le jugement d'existence, c'est évident. Mais l'évidence de ce que contient ce jugement d'existence n'est pas du tout évident. Autrement dit, l'être que je saisis dans le jugement d'existence, il n'est pas lumineux, il n'est pas la lumière. Quand je dis « je suis », ce n'est pas lumineux du tout. La preuve, c'est que mon voisin existe aussi. Il est peut-être beaucoup plus lumineux que moi. C'est possible, mais ça pose un petit problème. Nous existons tous les deux. Nous sommes dans le même bain de l'être. Qui peut être glacial ou très chaud. Ça dépend. Nous baignons tous dans l'être. Qu'est-ce que ça veut dire, baigner dans l'être ? Baigner dans l'océan de l'être. Parce que nous existons tous, et nous existons tous indépendamment les uns des autres. C'est invraisemblable. Si je réfléchis sur le jugement d'existence, je vois tout de suite sa complexité. C'est obscur. C'est très évident qu'il faut le poser. Ça, oui, c'est évident qu'il faut le poser. Mais le contenu de ce jugement d'existence est très obscur. C'est pour ça qu'une philosophie qui commence par la clarté ne commence pas par le jugement d'existence. C'est bien évident. Une philosophie qui veut commencer par la clarté ne commencera jamais par le jugement d'existence, parce que c'est commencer par quelque chose d'obscur. C'est commencer par quelque chose qui a un poids invraisemblable. Toutes les réalités que je vois existent. La lune existe, pourtant je suis distinct de la lune. Le soleil existe, il ne vit pas. J'existe, tu existes, et ainsi de suite. Alors déclinez, voyez tout. Oui, et alors, nous existons tous et nous sommes tous distincts les uns des autres. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que l'exister ? Quand vous dites « ceci est », vous vous posez la question, non pas. Vous voyez que les « ceci » sont très divers. Donc, la multiplicité des « ceci », c'est bien évident. Table. Oui, vous pouvez tout énumérer, hein. Les ceci sont multiples. Et c'est toujours « et ». C'est invraisemblable. « Et » ne varie pas. La table existe. J'existe. Pauvre langage. Vous voyez ? Pauvre langage. Le langage dit toujours « exister ». Et chaque fois « exister » prend un sens nouveau. La table existe autrement que la vache. Du moins, si on regarde la table et la vache. Ils existent autrement. J'existe à ma manière, vous existez à la vôtre. Nous sommes nés à des dates différentes. Et même ceux qui sont nés aux mêmes dates, ils sont nés dans des lieux différents. Et même ceux qui sont nés dans le même lieu, ils ont encore quelque chose de différent. Nous avons tous une manière différente d'exister. Et c'est ce qui colle le plus à notre peau, ça. Nous avons une manière différente de vivre, une manière différente d'exister. Donc il y a une diversité invraisemblable dans l'exister, et c'est toujours exister. Comment se fait-il que c'est toujours exister et que c'est toujours divers ? C'est quand je suis en face, donc, de cette unité et de cette multiplicité, vous voyez, le problème métaphysique se pose tout de suite, la multiplicité et l'unité, mais au niveau de l'être. C'est pas la multiplicité et l'unité en soi, mais c'est la multiplicité et l'unité de l'être, de ce qui est. Parce que je suis près d'un jugement d'existence. Cette multiplicité et cette unité m'est donnée à travers toutes mes expériences. Et c'est parce que je vois cette multiplicité et cette unité que je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que l'exister ? Qu'est-ce que c'est qu'exister ? Qu'est-ce que c'est qu'être ? Vous voyez comment naît l'interrogation par rapport à l'être. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Parce que l'être n'apparaît dans son unité qu'au niveau de l'interrogation. Au niveau de l'expérience, je n'ai jamais expérimenté l'être. Le père, le bon père Mandonné, qui était très très réaliste, un bon historien du Moyen-Âge, il avait tout un vieil atavisme de paysan, le père Mandonné, qui avait de la sagesse à la fin de sa vie. Une grande sagesse. Le père Mandonné disait, l'être, on le saisit quand on a 40 degrés de fièvre. On voit un petit nuage. Vous voyez très bien, ça c'était merveilleux. C'était, vous voyez, Aristophane, c'est, on voit un petit nuage. L'être, c'est ça, c'est un petit nuage qui se balade. Oui, c'est pas ça, c'est évident. Mais pour beaucoup, c'est ça. Vous voyez ? Alors la sagesse consiste à le dire avec ironie, en disant, oui, l'être, pour beaucoup, c'est un petit nuage. C'est vrai que je suis dans une situation terrible de voir que ce qui est fondamental dans tout ce que je connais m'échappe. Ça m'échappe. Prenez l'être dans votre main. Il y a quelques années ici, il y a eu au cirque une chose admirable. On m'avait dit qu'il y avait une chose très intelligente au cirque. Au cirque, il y a quelquefois des choses très intelligentes à voir. C'est une très bonne excuse pour y aller. C'est intelligent. Alors, il y avait Dimitri qui faisait le mime merveilleux de prendre la lumière. De prendre la lumière comme on prend, vous savez, un papillon. Pour prendre la lumière. Alors, c'était admirable. Parce qu'on voyait toujours que la lumière ne se prend pas comme on prend un papillon. C'est très très profond. Vous voyez, vous pouvez prendre tous les ceci. La table, une vache, vous le prendre tous les ceci, vous pouvez les prendre. L'être, vous ne pouvez pas le prendre. Il vous échappe tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme la lumière. Et c'est la lumière du ceci. Puisque le ceci n'a d'intérêt que s'il existe. Il est autre que parce qu'il existe. S'il est réduit à l'universel, il n'est plus. Alors, je ne peux pas le saisir, je ne peux pas le capter. Et pourtant, je l'affirme. Alors, ou mon langage est complètement farfelu, ou mon langage signifie quelque chose. Et il n'y a pas que mon langage, il y a l'expérience. Si vous me dites que cette table n'existe pas, je vous dis, écoutez, venez, venez toucher là, et puis on va bien voir que ça existe, et puis on la prendra, et puis on assommera le type dessus, vous verrez bien que ça existe. C'est quelque chose, ne dites pas que c'est rien, ne dites pas que c'est un fantasme, c'est une idée, c'est un petit nuage. Non, non, pas du tout, ça existe. Elle existe, elle est. Donc, c'est ce qui donne toute la signification dernière au ceci, la signification dernière. Le ceci, il existe. Le ceci a sa détermination et il existe. Alors, comment ça peut se faire? Qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, c'est l'interrogation, et ça nous le verrons la fois prochaine, qui fait passer du concret à l'abstrait. Vous passez de l'affirmation « ceci est » à « être ». « Être » est abstrait. C'est en ce sens-là que le père Mandonné avait raison de dire « ça n'existe pas ». C'est vrai, être n'existe pas comme ceci est. Être n'existe que dans mon intelligence qui interroge. Alors vous voyez, très grand danger d'idéaliser tout de suite.